Non, pas du tout.
Rachel commence par un vav. Et Rachid dit que ce vav, le vav de Ve'elé, le vav, il rattache donc cette paracha à la paracha précédente. Et on veut dire par là que les Mishpatim ont été dits de la même manière que ce qu'on a dit dans Parashat Yitro. On va commencer par la fin. Allez au chapitre 24. Dans la septième montée, au milieu. Après l'énumération de certains Mishpatim, Ve'el Moshe Amar, Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu et il lui dit, Allez El Hachem, monte vers Hachem, Ata ve'Aaron Nadav ve'Avihu, v'Shivim Zikne Israël, v'Ishtachvisem Merachok. Tu montes sur le Sinaï, toi et Aaron, Nadav, Avihu, les Skenim, et vous prosternerez devant Hachem, mais c'est toujours loin encore. C'est-à-dire à distance de. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai donné, non?
On
Ah,
ne vous voit pas sur
maintenant,
votre caméra est
je
fermée, Rav. Alors, ça y
C'était
est.
par une perte. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Mais le passouk dit, à partir de là, Moshe va continuer tout seul. Et les accompagnateurs vont rester là où ils étaient. Et le peuple ne montera pas non plus. Et donc, Moshe va monter, puis il va entendre ce qu'Hachem va lui dire. Et il va retourner vers le peuple. Et il va dire au peuple tout ce qu'Hachem lui a dit. Et tous les Mishpatim qu'on vient de lire. Vayan kol ha'am kol echad vayomru kol advarim asher diber Hachem na'aseh. Tout ce qu'Hachem a dit, on va le faire. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu va écrire Et kol divrei Hachem, toutes les paroles d'Hachem, on ne va pas dire ce que c'est tout de suite. Vayashkem baboker vayven mizbeach tachat ha'ar. Il va construire un autel au pied de la montagne et il va dresser 12 stèles qui correspondent aux 12 tribus. Et il va envoyer Naareb Bnei Israël. Les Naareb Bnei Israël, c'est les prorotes. Il va envoyer les premiers-nés faire des korbanot. Ils feront ces korbanot. Ce sera à la fois des holot, des holocaustes et des shlamim, c'est-à-dire des korbanot dont on mange la viande, essentiellement, quoi, sauf un tout petit peu. Ils vont approcher des taureaux. Moshe va, quand on fait la shrita, on recueille, toujours au Beth Amikdash aussi, on recueille le sang. Donc Moshe Rabbeinu va prendre la moitié du sang. Et là, il y a la fameuse histoire. Comment est-ce que Moshe peut savoir exactement ce que c'est que la moitié du sang? Et la solution, c'est que Hachem va envoyer un malach qui va partager exactement, en deux parts exactement égales. Alors c'est important que ce soit deux parts égales, parce que ce qu'on est en train de faire ici, c'est une espèce de cérémonie d'alliance. Donc, il faut que les deux parties reçoivent la même, enfin, la même quantité de sang. Vaikar Moshe Tratsi Adam prendra la moitié du sang, il va le mettre dans des haganot, dans des bassines, il va mettre la moitié du sang et il va verser ce sang, jeter ce sang sur le misbère, sur les korbanot. Et puis il va prendre Sefer HaBrit, le livre de l'Alliance. Je ne sais pas d'où il vient, on n'a jamais entendu parler d'un livre de l'Alliance. Bon. Donc il faut là qu'on nous explique qu'est-ce que c'est que ce livre de l'Alliance. Vaikra Beozne Ha'am, il va le lire, et là-dessus, le peuple va répondre après cette lecture, et ils vont dire Kol Asher Diber Hashem Naaseh Venishma. Pas seulement Naaseh, mais Naaseh Venishma. Vaikach Moshe et Adam va Yizrok à l'âme, et il va asperger le peuple avec le sang. Une procédure de existe dans procédure de purification. Vayomer, Hine Dam Abrit. Ceci est le sang de l'alliance. Asher Karat Hashem Imachem. Alliance qu'Hachem a scellée avec vous, al kol advarim ha'eleh, sur toutes ces paroles. Et donc, à ce moment-là, Moshe, Aaron, Nadav, Avihu, Shivim, les Bnei Israël sont montés, et ils ont, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, ils ont vu Eloke Israël, Tachat Raglav, Kemaase, Nivnat Sapir, Ketzem la Torah. Bon, on va s'arrêter là. Mais le dernier morceau, c'est Hachem dit à Moshe, tu montes sur la montagne, tu y resteras avec moi, et je te donnerai les louchot de pierre, les tables de ce qu'on appelle les tables de la loi. Et je te donnerai aussi les mitzvot que j'ai écrites pour que tu les enseignes et que tu les fasses entendre au peuple d'Israël. Bon, c'est ce qui s'est fait. Pardon? Oui, on va voir de quelle mitzvot il s'agit là. Alors, premièrement, comme vous voyez, ce texte qui parle du fait que mon cher Rabbeinu, tout à la fin, il va monter pour recevoir les louchot, ça veut dire que dans ce texte, ce texte-là, il a l'air de parler de quelque chose qui a eu lieu avant. C'est ce que pense Rashi. Rashi dit, ce texte, il n'est pas à sa place. Ce texte, il parle d'avant Matan Torah. Parce que Rashi applique ici un principe qui est dans la Gemara, dans Shabbat, qui dit que En Mukdam ou Meochar Batorah. La Torah ne rapporte pas les choses de façon obligatoirement chronologique. Ça, c'est la chita de Rashi, partout. Il est sur ce point-là en opposition avec l'autre grand mefarech de Chumash, le Ramban. Le Ramban ne peut pas dire que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de principe, parce que c'est une Gemara mefureshet, c'est une Gemara dans Shabbat. Mais le Ramban, autant que possible, il n'utilise pas ce principe. Lui, il dit, les choses se sont passées comme elles sont écrites, dans l'ordre dans lequel elles sont écrites. Alors, ça change beaucoup les choses, bien sûr. Alors, avant d'aller plus loin, on va quand même donner quelques petites explications. On va regarder Rachid d'abord. Alors, sur le premier passouf de Kavdalet, il y a Rashi. Rashi dit, Vel Moshe Amar, Hachem a dit à Moshe, et là Rashi dit ce que je viens de vous dire, Parshazu Nehemra Kodem Aseret HaDibrot. Cette paracha, elle a été dite avant les 10 commandements, avant les 10 paroles. Elle a donc été dite, Bedalet Sivan, Nemarlo Ale. Le 4 Sivan, je vous rappelle que le Matan Torah, c'est le 6 ou le 7 Sivan. Donc, on est ici le 4 Sivan, cette paracha-là. Moshe reçoit l'ordre de monter le début. Et donc, Moshe Nigash Levado et la Raphaël. Donc, il n'y a que lui qui va entrer dans le brouillard dans lequel, voilà, qui manifeste la présence divine. Et ensuite, il va revenir, il va donc, Hachem va lui parler, il va revenir vers le peuple, le même jour, dit Rashi. Donc, on est toujours le 4 Sivan. Et les Bnei Israël vont dire, Et kol divrei Hashem, toutes les paroles d'Hashem, on va faire ce qu'il a dit, à savoir, mitzvah prisha ve'akbala. La prisha, c'est le fait qu'ils reçoivent l'ordre de se séparer de leurs épouses pour se préparer à recevoir les paroles d'Hashem. Et la akbala, c'est les indications sur la limitation qui imposait à tout le monde de ne pas monter sur le Sinaï. Le Sinaï va être un lieu interdit durant le processus. Mais immédiatement après, il n'y aura plus aucune kedusha, plus aucune sainteté, les troupeaux pourront l'envahir. Evet Kolam Mishpatim, c'est quoi Kolam Mishpatim? Alors Rashi dit, Sheva Mitzvot Shenitztavu Bnei Noach. Alors qu'est-ce qu'il va écrire Moshe? Quand on est encore avant Matan Torah, on est le 4. Qu'est-ce qu'il écrit? Ils n'ont pas reçu la Torah encore, les Israéliens. Qu'est-ce qu'il écrit? Les 7 Mitzvot de Bnei Noach, c'est-à-dire les Bnei Israël avant d'être Bnei Israël, sont Bnei Noach. Ils ont le statut de Bnei Noach. Sur les Avot, il y a des discussions pour savoir est-ce qu'on doit les considérer comme des Bnei Israël, puisqu'ils pratiquent la Torah avant qu'elle soit donnée. Et donc, est-ce qu'on va leur donner un statut de Bnei Israël ou est-ce qu'on va leur donner un statut de Bnei Noach? Ils vont conserver un statut de Bnei Noach, qui est le statut de l'humanité tout entière. Toute l'humanité descend de Noach. Et puis en plus, Shabbat, Kibbutz Av, Parah Adumah, Dinim, des choses qui leur ont été données, Nitnu
Parah Adumah,
Pardon?
Parah
C'est un chok, mais c'est une mitzvah. Les
Adumah,
chokim, c'est des mitzvot. Il leur a donné aussi des. Il a aussi des chokim.
Attends, ça s'appelle une papille.
Pardon?
Ça s'appelle une papille.
Ah, ça entre tout ça, ça entre dans les Mishpatim, c'est toutes les lois, en fait. Ça veut dire là, au sens large de Mishpatim, on n'entre pas dans la différence entre Mishpatim, Chukim et Torot, etc. Et, donc, entre la sortie d'Égypte et le Sinaï, à un moment donné, les Bnei Israël ont donc passé à un endroit où il n'y avait pas d'eau buvable. Ils se sont plaints. L'eau qui était là-bas était amère. C'est pour ça que l'endroit s'appelle Mara, qui veut dire amère. D'accord? Et Hachem a montré à Moshe Rabbeinu un bois qui a rendu l'eau douce. Du coup, ils ont pu boire. Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est marqué là-bas, Chok. Mais là-bas, c'est écrit explicitement qu'il a donné Chok ou Mishpat. C'est d'ailleurs de là qu'on sait qu'il y avait des paradouma, parce que tout le monde commençait. Mais là, ça s'appelle Mishpatim, sens large. Et donc, Moshe Lara, voilà. Et il s'appelle Et Kol Divrei Hashem, Et Kol HaMishpatim. Donc, tout ça, il l'a raconté au peuple d'Israël. Alors, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il leur raconte? Ils le savent, non? Ils sont des Bnei Noach. Donc, qu'est-ce qu'il leur, il leur dit quoi? C'est-à-dire, c'est quoi? Et en plus, il leur dit ça juste avant qu'on abandonne, qu'ils abandonnent, eux, le statut de Bnei Noach. C'est comme s'il fallait, pour pouvoir accepter le statut de Bnei Israël, il fallait bien d'abord être conscient de ce qu'on a, qu'on abandonne, pour passer maintenant à autre chose, le statut des Bnei Israël, pour qu'ils voient bien la différence, visiblement. Et donc ça, s'il leur a dit ça oralement. Et le peuple, à ce moment-là, il a répondu, Kol HaDvarim, Asher Diber Hashem Naaseh, on va faire tout ce qu'Hashem a dit, on va le faire. Cette phrase-là, Kol Asher Diber Hashem Naaseh, ils l'ont déjà, elle est écrite déjà dans Parshat Yitro. Seulement là-bas, hein, là-bas, c'est marqué Yardav. Ils ont dit tout ça ensemble. Ici, le Yardav, il n'est pas écrit en tant que Yardav, mais c'est marqué Vayan Kolaam Kolechad, d'une seule voix. Donc, ça va être important. Il y a une espèce, il y a une unité quand ils répondent ici. Nasé. Et ensuite, Moshe Rabbeinu écrit Et Kol Divrei Hashem. De nouveau, c'est Kol Divrei Hashem. Alors, Rashi dit, qu'est-ce qu'il a écrit? Vechtov Moshe, il a écrit, Mi Bereshit Vad Matan Torah. Vekatav Mitzvot Shenitztavu Bemara. Donc, il a écrit un livre, il va être appelé un Sefer HaBrit par la suite. Il a écrit un livre dans lequel il a, si on veut, c'est le Chumash Bereshit et le début de Shemot. C'est-à-dire, en fait, le temps où Moshe n'était pas là. Un temps que Moshe n'a pas vécu. Plus les mitzvot de Mara. Donc c'est intéressant parce qu'il n'a pas écrit dans ce Sefer HaBrit, il n'a pas écrit les mitzvot des Bnei Noach, mais celles de Mara. C'est-à-dire celles qui leur ont été données en tant qu'Israël. Bon, il faut se rappeler que quand ils ont reçu ces mitzvot-là, Israël n'était pas encore un peuple. D'accord? Les Bnei Israël deviennent un peuple au pied du Sinaï. C'est-à-dire, on a vu dans Parshat Yitro, que les Bnei Israël sont partis de Refidim, là où il y a eu la guerre contre Amalek. Ils sont allés Bemidbar Sinaï. Ils ont campé, et là-bas c'est marqué, Vayachanu Bamidbar. Ils ont campé. Et dans la suite, et ensuite c'est marqué Vayetran, et le peuple a campé. Donc là, on a passé du pluriel au singulier. C'est le moment où les Bnei Israël deviennent un peuple. On peut parler d'eux au singulier. Ils forment un tout. On peut parler au singulier. Donc, Mara. Les mitzvot qu'ils ont reçus à Mara, ils ne les ont pas reçus en tant que Klal Israël. Ils ont reçu en tant qu'individus qui sont à l'état d'un embryon de peuple, mais il n'y a pas encore de peuple. Ce qui est assez particulier parce que la Torah, elle a été donnée normalement au clan Israël dans sa totalité. Alors c'est très possible que au Sinaï, on a répété la mitzvah, les mitzvot de Mara. Ça, c'est une chose. Et ça s'appelle Sefer HaBrit. Donc, on parle d'une alliance. Mais de quelle alliance parle-t-on? Par la suite, on vient de le lire, l'alliance, elle va être scellée avec cette aspersion du sang, moitié sur les korbanot, c'est-à-dire moitié pour Aaron et moitié pour les Bnei Israël. Bon, c'est une façon de sceller l'alliance. Mais c'est d'où on sait qu'il y a une alliance, ça tombe du ciel. C'est vrai que l'alliance ne peut faire, vraiment cachée, mais elle ne peut pas faire autre chose que tomber du ciel. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut peut-être penser comme ça. Dans les Arba, le Shonot Shel Geoula, dans les quatre verbes qui sont utilisés pour décrire la sortie d'Égypte, on avait dit, il y a quatre verbes parce que la sortie, elle s'est faite très progressivement, de même que la réduction en esclavage, elle s'est faite elle aussi progressivement. Ils sont pas du jour au lendemain, on les a mis dans les camps de concentration et bossés. Bon, d'abord, on leur a demandé de faire un travail, et puis après, on a commencé à leur faire des problèmes avec leurs enfants, avec les garçons, puis après, on a tué ouvertement les gens. Et le quatrième verbe, c'est la partie, je vous prendrai comme mon peuple. Ça veut dire que la sortie d'Égypte, c'est pas une libération pour être libéré. Si vous voulez, beaucoup de gens considèrent que la liberté, c'est de ne pas être esclave. Ça n'existe pas dans la Torah. Dans la Torah, la liberté, c'est toujours une liberté pour quelque chose. D'accord? C'est Chérout, pourquoi Chérout, c'est Maché Charout à la Loukhot, qui est gravé sur les tables. Donc, la sortie d'Égypte n'est terminée que quand les Bnei Israël ont reçu la Torah. Alors, peut-être qu'il faut. C'est pas tout à fait clair, dans la mesure où, Velakarti et Trem le Ham, je vous prendrai comme mon peuple et moi je serai votre Eloka. Il n'y a pas dans le. On n'entend pas Matan Torah. On entend l'alliance. Oui, l'alliance. Donc c'est comme si en fait au Sinaï, il y a eu deux choses distinctes. Il y a eu l'alliance. Ça c'est le couronnement ou l'aboutissement de la sortie d'Égypte. Et après, Hachem va parler avec Moshe. Et Hachem dit à Moshe, la raison pour laquelle je te parle est que de telle sorte que les Bnei Israël entendent que je te parle, c'est pour qu'ils puissent te faire confiance par la suite. Parce que sinon, Moshe Rabbeinu, il dit, Hachem m'a dit, on peut bien te croire, mais. Alors Hachem a fait une chose. Il a fait en sorte que les Bnei Israël, pendant très peu de temps, on ne sait pas combien de temps, il les a élevés à un niveau de prophétie tel qu'ils pouvaient entendre la prophétie qui était adressée à Moshe Rabbeinu. Comme ça, ils ont été convaincus. Hachem parle vraiment à Moshe. On l'a entendu. Donc, par la suite, on va pas remettre en question qu'Hachem lui parle. Après, il y a des rigolos, Korach, etc., qui vont contester. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils contestent exactement. C'est pas toujours très clair, quoi. Personne ne dit, ils disent pas qu'Hachem lui a jamais parlé. Ils vont dire sur le point de la qui tu as nommé chef, sous-chef de la sous-tribu, etc. Ça, c'est toi qui l'as décidé tout seul. Mais bon, le reste, il ne conteste pas le reste de la Torah. Donc, on pourrait penser. Et puis ensuite, quand Hachem donne les Aseret à Dibrot, c'est quoi les Aseret à Dibrot? Alors, même si je considère que les Aseret à Dibrot, ça contient toute la Torah, un peu comme Rav Sadia Gaon, il le fait pour vous dites à Shavuot après-midi. Il y a un travail de Rav Sadia Gaon, il a fait tout un travail pour montrer comment les 613 mitzvot se ramènent au Aseret Hadibrot. Le Minhag Sfarad, que je connais de loin, c'est d'étudier Shavuot après-midi le travail de Rav Sadia Gaon, la façon dont il a rattaché les mitzvot au Aseret Hadibrot. Alors d'accord, ça vaut. Mais pourquoi il l'a donné à ce moment-là? Pourquoi c'est au Sinaï? Alors peut-être que on peut dire que Hachem propose une alliance. Les Bnei Israël, ils savent qui ils sont. Et Hachem leur dit, voilà, je vais faire une alliance. Et les Bnei Israël ont accepté l'alliance. En vérité, ce sera le 5 parce que, entre-temps, on va passer du 4 au 5. Le 5, ils ont accepté l'alliance. Une alliance qui n'était pas encore scellée et dont ils ne connaissaient absolument rien de l'alliance. Ils connaissaient pas le contenu de l'alliance. Peut-être on peut dire qu'ils avaient, est-ce qu'ils ont compris que le contenu de l'alliance, c'était une partie, c'était les mitzvot de Mara? Peut-être, je sais pas. En tout cas, ils ne connaissaient pas les 613 mitzvot. Et ils ont accepté une alliance sans savoir de quoi elle était faite. Mais c'est une alliance entre Hachem et le clan Israël. Le clan Israël, ils ont dit, on est prêt. Peu importe. On accepte la Torah. On accepte les conditions. On fera ce que tu vas demander qu'on fasse. Mais maintenant, il faut qu'Hachem se présente à eux. Donc, Aseret HaDibrot, c'est une présentation d'Hachem. Comme si Hachem disait, bon voilà, je me présente, c'est moi le deuxième côté, enfin, c'est moi votre partenaire dans l'alliance. Alors il commence par se présenter en disant que c'est lui qui les a sortis d'Égypte, avec la fameuse question. Vous dites, moi je croyais que c'est une question de posée par Abilda Levi. Mais quelqu'un m'a dit récemment, je vais pas regarder, c'était le Ramban qui avait interrogé Rabbi Yehuda Alevi, c'est pas Rabbi Yehuda Alevi qui a posé la question, c'est le Ramban, je crois, qui a interrogé Rabbi Yehuda Alevi, ou, parce qu'en discussion, il était comme toujours avec Rabbi Avraham Ibn Ezra. En tout cas, la question est, pourquoi est-ce qu'Hachem ne leur dit pas, Anochi, Boréolam, pourquoi il ne se présente pas en tant que créateur du monde? C'est quand même plus que de vous avoir fait sortir d'Égypte. Vous avez entendu que la réponse était que les Bnei Israël, le créateur, personne n'y était, quoi. Ça nous dit rien, complètement abstrait. Par contre, sortir d'Égypte, il y a 50 jours, on est sorti d'Égypte. Donc, ça a un sens. Donc, il se présente comme tel et on sait très bien que sur le premier passouk de la Seretta, des premières des paroles, il y a une grande discussion, est-ce que c'est une mitzvah ou pas? Mais même si c'est une mitzvah, elle se fait sous la forme d'une présentation. Anochi, Hashem Elokecha, Sharotzetira. Et peut-être que le reste, les neuf autres pas, les neuf Dibur, les neuf paroles, ça fait aussi partie de la présentation. C'est-à-dire, Hachem ne veut pas dire je suis dans ce nuage, il faut qu'il dise quelque chose. Comment est-ce qu'il va se présenter à eux? Non, merci. Comment est-ce qu'il va se présenter à eux? Il va se présenter en disant, voilà, voilà mes valeurs, en quelque sorte. Voilà les valeurs, c'est-à-dire adhérer à l'alliance fondamentalement, ce sera toutes les mitzvot, maintenant je vous donne un résumé, hein, c'est voilà ce que je suis. On peut dire comme ça. Parce que sinon, par exemple, il aurait pu, sinon, pourquoi c'est pas intégré en Mishpatim? Alors après coup, on va dire, maintenant les Mishpatim aussi ils ont été dit à ce moment-là. Alors ça, c'est un... Alors du coup, on a, je sais pas, complètement différente, le Ramban, il dit que tout ça, c'était avant Matan Torah. Pardon, pas le Ramban, le Rashi. Rashi dit que c'était tout ça, c'était avant Matan Torah. Le Ramban dit pas du tout. Il y a eu Matan Torah, et dans Matan Torah, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, il y a eu justement un Seret HaDibrot, qui ont été dites, et puis par la suite, on a dit aussi les Mishpatim, et c'est seulement après que Moshe est monté au Sinaï pour recevoir toute la Torah. Les 40 jours, c'est seulement après, maintenant. C'est Ramban. Alors, à Matan Torah, c'est pas très clair ce que Moshe Rabbeinu monte ou pas. Alors, on voit très bien à Matan Torah ce qui s'est... On ne sait pas. C'est vraisemblablement il est monté parce que... Maintenant, évidemment, chacun a des petits problèmes, que ce soit Rashi ou Ramban, c'est pas toujours très facile de dire tout ça. Et puis surtout, le problème, c'est la paracha suivante, c'est Trouma, c'est-à-dire c'est la construction du Mishkan. Le veau d'or pour le Ramban, il a lieu quand? Il est dans Parchat Kitissa. Donc, les halakhot concernant le Mishkan sont avant Kitissa. Donc, le Mishkan n'y vient pas en réponse, comme dira Rambam, par exemple. C'est pas, on a besoin, on a le Mishkan avec des korbanot, tout ça. Parce que c'est l'air du temps. Il dit comme ça. Rambam, il dit comme ça. C'est-à-dire, les Bnei Israël, ils avaient besoin de quelque chose d'un peu plus concret. C'est bah, c'est très, très difficile. Ce Dieu qui est complètement abstrait, on ne voit rien, il n'y a pas de représentation et tout. Ils avaient besoin de quelque chose d'un peu plus concret. Alors, ils font des korbanot. Mais Rambam dit, mais c'est. Enfin, dans le Moreh Nevuchim, il dit, c'est une concession. Dans le Yad, non, mais dans le Yad, dans le Moré, comme ça. Mais d'après, si Ramban continue de penser que le veau d'or, il a eu lieu après, il a eu lieu quand on avait déjà le Mishkan. Et pas du tout quand Moshe est monté. Pas obligatoirement quand Moshe est monté. Donc, qu'à la suite du veau d'or, Moshe soit obligé de remonter, parce que les Bnei Israël ont dégringolé, que d'une certaine manière, peut-être que dans l'état dans lequel ils sont après avoir dégringolé, il peut pas leur raconter la Torah telle qu'Hachem le lui a donnée en première fois. Parce que quand vous enseignez ou quand vous parlez à quelqu'un, vous devez adapter le discours aux auditeurs, aux récepteurs. Et donc, quand le récepteur change de la façon aussi radicale que celle des Bnei Israël avec le veau d'or, il faut sûrement changer. Donc, Hachem que Moshe doive remonter pour réapprendre la Torah dans la version qu'il doit leur donner, ça se comprend très bien. Voilà. Donc, on n'en parle pas explicitement, mais on a compris que pour recevoir, il faut qu'ils vont chez Hachem. Là-bas, il va falloir qu'ils remontent, monter, remonter pour obtenir ensuite, par la suite, le pardon d'Hachem. Les louchot, on parle de louchot, que Hachem va donner des louchot à Moshe Rabbeinu. Mais les premières louchot, si on a reçu les louchot avant de recevoir le Mishkan, on allait les mettre où, les louchot? Si on n'a pas de Mishkan, il n'y a pas non plus d'Aaron HaKodesh. Bon, ils trouveront une boîte, hein, c'est pas un problème. Mais où? C'est quoi? Donc, ce qui est fondamental, c'est il y a une alliance avec Hachem, il y a une acceptation des Bnei Israël de cette alliance avant même qu'elle ait eu lieu. Il y a un Sefer HaBrit, un livre. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce Sefer HaBrit? Est-ce que le Sefer HaBrit, c'est l'embryon du Sefer Torah? Ce qui contient un Bereshit, le début de Shemot. Mais après, il y a quand même des choses qui se... Bon, les mitzvot des Bnei Noach, elles ne sont pas dans le Sefer Torah, en tout cas pas de façon explicite. Elles sont dans le Sefer Torah. La Gemara dans Sanhedrin, elle apprend les Shema mitzvot des Bnei Noach à partir d'un passouk dans Bereshit. Mais c'est marqué nulle part explicitement. Dans le Brit, on a l'impression qu'il les a... Dans le Brit, il y avait les Sheva Mitzvot des Bnei Noach. Sauf que dans l'écriture, vous vous souvenez, comme c'est marqué, quand il leur a dit oralement les choses, alors il a tout dit, comme dit Rashi. Mais quand il va Yirtov Moshe et Kol Divrei Hashem, là Rashi a expliqué ce qu'il a écrit. Mibreshit Admatan Torah, et il a les mitzvot Shenitztavu Bemara. Seulement ça. Bon, il n'a pas écrit dans le Sefer, il n'a pas écrit les Sheva Mitzvot des Bnei Noach. Il les a dites oralement, il n'a pas écrit. Donc on pourrait penser que modulo une réorganisation des mitzvot de Mara, qu'on remette je sais pas, la Mila dans Parchat, pas du côté d'Abraham, on peut la mettre aussi dans Abraham, mais nous on fait pas la Mila d'Abraham, on fait la Mila de la Parchat dans Tazria, pardon, il y a la mitzvah de Mila, de Mila, Imol Lachem, c'est là-bas. Nous on fait la mitzvah d'après ça. On fait l'alliance d'Abraham, mais la mitzvah, elle est écrite là-bas. Il faut la mettre Shabbat à sa place, il faut la mettre Parah Aduma à sa place. Alors pas simplement tout de suite après le Réchit. Mais bon, ça c'est modulo ça, on peut... Alors on peut dire que c'est l'embryon du Sefer Torah. Il y a une marloquette. Si le Sefer Torah... Il a été donné d'un seul tenant, mais à la fin de la vie de Moshe, ou bien est-ce qu'on a reçu le Sefer Torah par chiot par chiot? D'abord, il y avait un événement qui s'est passé, on l'a écrit, et petit à petit, le Sefer Torah a été écrit comme un feuilleton, quoi. Quelque part, les épisodes sont venus s'ajouter les uns aux autres. Quand on dit la totalité, c'est moins le problème des 8 derniers psukim de la mort de Moshe, évidemment. Bien. Si on revient au début de la paracha, je vais dire deux mots d'abord du Avadim, du Eved. Je pense que si c'était vous qui aviez composé la parasha Mishpatim, vous n'auriez pas mis comme première mitzvah une mitzvah qui concerne l'esclavage. D'accord? Je pense que le premier réflexe, n'importe qui d'ailleurs, si on essaye de écrire que interdit d'avoir des esclaves. On est sorti d'Égypte, sorti de l'esclavage. On va interdire l'esclavage. Et qu'est-ce que la première mitzvah de Mishpatim? C'est l'esclavage. OK. Alors, la première sorte d'esclavage, il va y avoir plusieurs sortes d'esclaves, c'est ce qu'on appelle Eved Ivri. Alors, c'est intéressant, le mot Ivri, il vient pas tellement souvent. Bon, là, il est là. Eved Ivri, c'est un juif. C'est un juif qui va devenir esclave d'un juif. C'est un esclavage qui n'est pas un esclavage éternel. C'est-à-dire, on n'est pas esclave pour toute sa vie. Ce qui est prévu, c'est que l'esclavage en question il va durer 6 ans et la 7e année, on est libre. Maintenant, comment est-ce qu'on devient esclave? Alors, il y a deux façons de devenir esclave. C'est ou bien quelqu'un qui a volé et qui ne peut pas rembourser, et il y a toutes sortes de conditions dans lesquelles on ne va pas entrer maintenant, et qui est vendu par le Beddin. Et la deuxième façon de devenir esclave, c'est de décider de se vendre soi-même. Quelqu'un décide de se vendre lui-même comme esclave. Il n'y aura pas tout à fait les mêmes dînimes. Mais en tout cas, la structure 6 ans, 7e, on sort, c'est la même pour les deux. À mon avis, il y a d'abord un problème, c'est que pour vendre un esclave, qu'il soit vendu par le Beddin ou qu'il soit vendu par lui-même, faut trouver un acheteur. Et c'est pas tellement intéressant d'acheter un Eved. Imaginez, l'Eved en question, il a volé. Puis on dit, le Bedin, c'est une situation où le Bedin décide de le vendre. Seulement, il a une famille. Il a 12 enfants. Une femme et 12 enfants. L'acheteur, il va devoir entretenir une famille avec 12 enfants pendant 6 ans, alors qu'il n'y a qu'un seul qui travaille, la femme et les enfants, ils ne travaillent pas. La femme va sûrement faire ce qu'elle faisait chez elle à la maison, quoi. Mais bon, elle ne travaille pas, elle ne doit rien à personne. Ils sont logés, nourris, blanchis, aux frais du propriétaire. Et celui qui travaille, oh, on ne peut pas lui faire faire des travaux trop difficiles. Il faut beaucoup veiller son, à son kavod. On raconte tout le temps, c'est que si vous avez un héritage, vous avez un oreiller avec des plumes de canard, je sais pas quoi, et les autres oreillers, il y a dedans, je sais pas quoi, de la paille. Qui est-ce qui aura l'oreiller avec les plumes de canard? Esclave. Parce que on peut pas lui faire sentir qu'il est esclave. Donc, vous pouvez pas le prendre pour vous. C'est lui. Et tout ça sera tout à l'avenant. Il travaille comme tout le monde. Bon, alors celui qui est vendu parce qu'il a volé, il n'a pas choisi. Mais quelqu'un qui choisit de se vendre, un peu spécial, quoi. Et d'un autre côté, il n'y a pas de chômage. Il est sûr d'avoir un toit, toute sa famille nourrie, ça. Il travaille, bon, tout le monde travaille. On ne peut pas lui faire faire des travaux spéciaux. Alors, quand il est vendu, il y a une halakha spéciale. S'il est vendu et qu'il a une femme, alors son maître peut lui donner une femme pour la nuit, pour les nuits. C'est-à-dire, c'est pas une femme avec laquelle il va faire kiddush le Shabbat matin. C'est une femme avec laquelle il aura un rapport qui éventuellement va produire des petits-enfants. Mais les enfants en question, leur statut, c'est esclave. C'est les enfants d'une esclave, donc ils sont esclaves aussi. Donc il aura une vie avec cette femme sans aucune responsabilité. D'accord? Il a un rapport avec elle. Ça produit les enfants, il peut, voilà, ça peut le plaire, ça peut ne pas le plaire. Ça, c'est seulement s'il est vendu. Si c'est lui qui s'est vendu tout seul, il n'y aura pas ce truc. Donc, il y a un travail de nuit, quoi, quand il est vendu. On travaille aussi de nuit. Alors, il y a un problème. C'est qu'au bout de 6 ans, on lui dit, maintenant, tu es libre. Et la Torah, elle envisage que lui, il n'a pas du tout envie d'être libre. Et il va dire, j'aime mon maître, j'aime ma femme et mes enfants, je ne veux pas être libre. Alors on l'amène au tribunal. Le tribunal essaie de convaincre qu'on n'est pas sorti d'Égypte pour devenir esclave. Mais s'il insiste, on va lui percer l'oreille dans la porte parce que il n'a pas bien entendu au Sinaï que Li, l'Israël Avadim, Melo Avadim, l'Avadim. C'est-à-dire que les Israël sont mes esclaves, ils ne sont pas esclaves d'esclaves. Et puis il va rester esclave jusqu'au Yovel. C'est-à-dire que s'il a de la chance, si par exemple, cette année, la 7e année, c'est, disons, 4 ans après le Yovel, donc il reste jusqu'au prochain Yovel 46 ans, donc il est tranquille pour les 46 ans à venir, il est pris en charge. Alors, juste ce qui me paraissait complètement fou, c'est que le maître en question, il est peut-être d'accord de prendre quelqu'un pour 6 ans, mais pas pour 50 ans. Ça coûte vachement cher. Et plus il devient vieux, moins il sera peut-être productif. Ou... Bon, le maître. Et en plus, il faut, pour que ça vaille la peine, il faut qu'il soit, je ne sais pas, orfèvre ou qu'il ait un médecin, ou qu'il ait inventé un nouveau logiciel ou quelque chose de particulier, parce que pour que ça vaille la peine. Alors, ben, supposons qu'il l'a fait, et que bon, c'est. Alors, heureusement, il y a une halakha qui dit que si lui dit, moi, j'aime mon maître, mais son maître dit, mais moi, je l'aime pas assez pour que. Alors, le maître n'est pas obligé de l'accepter. Enfin, il ne sera pas vendu si. Il ne sera pas prolongé si le maître ne le veut pas. Pardon?
Quand je vous ai dit, je vais m'en mettre ici, ma
Non, justement, le scandale. Je vous ai dit, cette histoire de lui donner une femme pour la nuit, etc., c'est seulement s'il est marié. Lui, s'il a déjà une femme. S'il n'en a pas, on ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il construise un foyer avec cette, avec l'esclave de son maître. Et quand il dit, j'aime ma femme et mes enfants, je veux pas être libre, mais quoi? Sa femme, elle, s'il était libre, sa femme, elle part avec lui. Oui, mais pas la, mais pas la, pas l'esclave. Donc quand il dit, j'aime ma femme et mes enfants, d'accord? Il faut que sa femme s'asseye avant de l'entendre parler. Elle entend qu'il dit, j'aime ma femme et mes enfants. Ben, il parle d'esclave. De, donc c'est raté, quoi, quelque part. On a voulu, on l'a fait seulement s'il avait une femme, pour qu'il ne s'attache pas à l'autre, là, mais bon, c'est raté, quoi. Bon, je ne dis pas quelles sont les relations désormais entre avec sa vraie femme, quoi. Bon. Alors, la femme que le maître peut lui donner, c'est quoi? C'est une esclave. Mais il n'y a pas d'esclave juive. Il n'y a pas de femme juive qui soit esclave. Ça n'existe que pour les hommes. Une femme juive n'est pas esclave. Il y a un point qu'il faut dire. La paracha d'après, c'est la paracha qui s'appelle Ama Ivria. C'est-à-dire, c'est une servante, une esclave hébreu. Et je vous dis qu'il n'y en a pas. C'est comme ça. On mariait les enfants très tôt, les filles très tôt. Et une fille qui a plus que, qui est plus que pubère, quoi, si vous voulez, qui a plus que 12 ans, 12 ans et demi, quoi. Elle est un peu en retard, elle aurait dû, normalement, elle devrait déjà être mariée. Et on voit très bien que le Kohen Gadol, il doit épouser une Betoula. C'est-à-dire une fille qui a moins. Patrie là. Pourquoi une fille qui est plus âgée que ça, c'est déjà pour le, c'est déjà, c'est pas l'idéal. Seulement, la fille, si elle est très jeune, comment elle va savoir se marier? Il y a une halakha, hein? Un homme n'a pas le droit de marier sa fille si elle n'est pas d'accord. Le père va avoir un droit, en plus du, le père, il a un devoir de s'occuper de ses enfants, garçons et filles. Sur sa fille, il a la possibilité de la marier, c'est-à-dire de la donner en mariage. Il peut choisir. Il faudra qu'elle soit d'accord. Mais la laisser choisir elle toute seule, ce n'est pas possible. Donc on a donné au père la possibilité, le droit, vous aurez de marier sa fille. Et s'il s'aperçoit qu'il aura du mal à marier sa fille, alors il existe un moyen détourné de la marier, qui consiste à la vendre à un homme le but de l'exercice, c'est de la faire apprécier par un bonhomme. D'accord, elle va travailler. Et il va l'épouser, lui ou bien son fils. Mais s'il ne veut pas l'épouser, elle rentre chez son père. Il ne peut pas la vendre. Il ne peut pas dire, j'ai acheté une femme, maintenant je peux la vendre. Il ne pourra pas la vendre. Alors maintenant, dès qu'elle est à deux poils pubiens, donc dès qu'elle a 12 ans et demi, 12 ans, elle rentre chez son père, si elle n'est pas mariée. Si elle a été mariée très tôt par son père, et que elle était chez le bonhomme en question pendant 6 ans, au bout de 6 ans, elle sort. comme l'esclave homme. Il n'en reste pas plus que 6 ans. Elle sort. Donc, c'est vrai que ça se donne comme un statut de servante, mais dès lors qu'elle est, c'était le but de l'exercice, dès lors qu'elle est devenue une épouse, elle a exactement les mêmes droits. La Torah, elle précise, tu n'auras pas le droit de la traiter différemment d'une autre femme que tu aurais pris directement, que tu aurais épousée. Tu vas avoir plusieurs femmes. Tu peux pas ne pas la traiter aussi bien que l'autre. Donc ça, c'est drôle de situation qu'il faut comprendre. C'est une situation pour protéger en réalité la fille. Et puis il y a une autre forme d'esclavage qui est l'esclave que vous allez acheter quand vous allez dans votre prochain voyage en Arabie Saoudite. Vous pouvez vous acheter un esclave. L'esclave que vous achetez là-bas, il s'appelle halakhiquement Eved Knaani. Je sais pas qu'il est obligatoirement cananéen, mais c'est comme ça qu'on... Cet Eved Knaani-là, la première chose, c'est que quand vous le ramenez chez vous, vous devez le convertir. Il faut l'obliger à se convertir. C'est le cas de figure de la conversion forcée. Si vous n'arrivez pas à le convertir, vous devez le revendre. Vous ne pouvez pas garder chez vous un esclave cananéen que vous n'avez pas pris en charge spirituellement, si vous voulez. Donc il va se convertir, il devient juif, il reste toujours esclave. Mais formellement, il est juif, il est tellement juif que... Non, en réalité... Quand on achète un tel esclave, on doit le faire travailler. On peut pas le laisser dans son oisiv, dans une oisiveté. Il faut qu'il travaille. Seulement, ça n'a rien à voir avec la condition d'un esclave en Grèce. D'un esclave, c'est pas en lisant la case de l'oncle Tom que vous allez savoir comment on traitait les esclaves cananéens. Parce que vous n'avez évidemment pas le droit de le tuer, vous n'avez pas le droit de le frapper. Si vous frappez l'esclave cananéen et que vous lui cassez une dent, il est libre. Si vous l'éborgnez, il est libre. On peut pas non plus lui faire faire n'importe quels travaux. Et là, il peut y avoir des hommes et des femmes. Et donc, s'il a acheté une femme, cette femme, elle devient Evet Knaani, enfin Shifra Knaanit, et c'est cette femme-là qui peut donner à Evet Ivri pour produire des petits esclaves. Et donc lui, c'est tout à fait extraordinaire au sens où ça sort de l'ordinaire parce que normalement, un juif, il n'a pas le droit d'épouser une esclave, enfin d'avoir des rapports avec une esclave. C'est un sot. Mais quand il s'est dégradé au point d'être devenu lui-même Eved Ivri, alors son maître peut lui, c'est pas lui qui va choisir, c'est son maître qui peut lui proposer. Cette femme-là. Cette femme-là, elle va être contrainte par son maître de l'épouser. Jusqu'où ça va, la contrainte. Donc, ça, c'est l'esclavage. On peut se demander pourquoi effectivement la Torah n'a pas interdit l'esclavage. Je pense que La Torah, elle a considéré que si tu interdis, ben les gens ils vont tourner l'interdit. Il valait mieux dire oui, ça existe, et voilà la loi. Et la loi, elle fait que cet esclavage-là n'a rien de commun avec un esclavage dans la mer d'Égypte, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Afrique, l'Amérique du Sud de l'Amérique. C'est pas du tout la même chose. Si vous voulez, la notion d'esclave, même quand les Bnei Israël sont esclaves en Égypte, ils sont esclaves, mais ils ont des troupeaux. À Goshen, ils ont des troupeaux. Donc, si ça se trouve, ils sont riches. Seulement, ils doivent travailler pour Paro. Et eux, ils sont pas du tout traités comme des esclaves, ils sont traités comme moins que des esclaves. C'est marqué, Hachem a dit à Paro, si tu laisses pas partir mon peuple, c'est Béni Bechori Israël. Le peuple d'Israël, c'est mon fils. C'est mon premier-né. Si tu le libères pas, alors je tuerai le premier-né. C'est fait à la plaie. Ça avait été annoncé à Paro avant toutes les plaies. Donc, les Bnei Israël ont donc été réduits en esclavage progressivement, comme on a vu, par les Égyptiens. Pourquoi est-ce qu'il fallait en passer par l'esclavage pour devenir un peuple? Ce qui est paradoxal chez les Bnei Israël, c'est qu'ils sont ils étaient en galoute, ils étaient en exil avant même d'être un peuple. N'a pas de sens. Ils étaient en galoute avant d'être un peuple. C'est-à-dire que d'abord pour apprécier la liberté, pour se rendre compte de ce que c'est que de ne pas être libre aussi. Il y a des endroits où dans la Torah c'est marqué, tu conduiras comme ça parce que toi tu sais ce qu'est la condition d'un esclave. Donc tu n'imposeras pas à qui que ce soit une condition pareille. Les Égyptiens, ils ne nous ont pas du tout fait travailler pour des raisons économiques. Les Bnei Israël construisaient le Pitom Ramsès, et la Gemara elle dit que ils construisaient d'un côté, ça se détruisait de l'autre côté, c'est Sisyphe. Ça servait à rien du tout. C'était simplement pour écraser les Bnei Israël. Donc la Torah, elle a pensé que c'était le meilleur moyen de lutter contre l'esclavage. D'ailleurs, il n'y a pas de mot en hébreu pour parler ni véritablement de l'esclavage, ni de l'idolâtrie. On parle des idoles, mais pas de l'idolâtrie. Il n'y a pas de mot pour l'idolâtrie. Le mot que nous, on utilise en lieu et place de l'idolâtrie, c'est Avoda Zara. L'Avodah Zarah, ça n'est pas du tout avoir d'autres dieux. Ça, on le dit, ça existe aussi. Ça s'appelle Elohim Acherim, d'autres dieux. On dit même pas des faux dieux, on dit des autres dieux. L'Avodah Zarah, Avodah, c'est le mot qui veut dire travail. C'est un mot qu'on utilise pour décrire le service d'Hachem au temps. C'est un mot qu'on utilise pour le travail de n'importe qui. C'est un mot qu'on utilise pour la pratique idolâtre. Simplement, on va lui accoler le mot zar, zara. Zar, ça veut dire étranger. Ça veut dire, c'est une avoda, mais elle est étrangère. C'est pas la bonne, c'est pas au bon endroit, ou c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire, etc. Ça, c'est pour l'idolâtrie. Eved. Un esclave, ça se dit un Eved. Eved, c'est la même racine que Avoda. Un Eved, c'est un travailleur. On n'entend pas du tout de connotation esclavage dans le mot Eved. Simplement, on a pris l'habitude de l'utiliser Eved pour l'esclave. Et que sinon, c'est un Oved, c'est pas de travail au présent. On va dire un paquet, il y a trouvé d'autres mots. Mais en fait, c'est toujours du travail. Et la parenté, justement, entre la avdout et la avodazara, c'est que d'une certaine manière, la avdout, c'est une forme, on peut dire, c'est une espèce de forme faible de mort. C'est un peu mort, quoi. Tu n'existes pas. Puisque tu n'es que au service du maître. Tu es la prolongation de la main du maître. Le maître veut faire un travail et il te le fait faire à toi. Et c'est pour ça que dans les lois qui gouvernent les relations entre un employeur et un employé, y a une chose qui est, à laquelle on doit faire toujours très très attention. C'est que l'employé ne soit pas esclave. Et pour ça, par exemple, en gros, un employé, il peut dire à tout moment, je m'en vais. Il faudra compenser l'argent, etc. Mais il peut pas lui dire, oh non, tu peux pas me laisser. Non, non, il peut partir. Parce que s'il pouvait pas partir, alors ça voudrait dire qu'il est esclave. Donc on a une définition très fine. Oui, hein, mais le contrat, même si avec un contrat, il peut partir. Simplement, il va devoir payer. Cause un dommage, alors tu vas me payer. Maintenant, si tu t'en vas maintenant, j'aurai du mal, je ne vais pas livrer à temps. Tout ça, on va évaluer, évaluer. Bedin va évaluer quel dommage il a causé en partant au milieu du travail, mais on ne peut pas l'obliger à rester. Alors, dans ces Mishpatim, il y a des Mishpatim, quand on regarde, il y a les Mishpatim qui ont l'air d'être des Mishpatim dont on parle dans Masechet Baba Metzia. Et d'autres Mishpatim dont on parle dans Kiddushin, donc Ktuvot. Et à la fin de la paracha, on parle de Moed, c'est les Moadim. Donc quelque part, il y a dans Mishpatim, si vous voulez, une espèce d'embryon de Shisha Sivrei Mishnah, quasiment, de la Torah orale. Et quand on regarde, voilà, si tu connais vraiment bien Mishpatim avec Rashi, hein, bon, ben, t'es un peu touché pratiquement à tous les sujets. Donc là, on va en terminer, si vous voulez, avec la sortie d'Égypte, quoi. Et puis, après, avant de passer aux pérégrinations dans le désert, ben, il y aura tout le Sefer Vayikra. sera tout ce qui concerne le fonctionnement du Betamigdash, du Mishkan, du Betamigdash, et aussi des valeurs. Voilà. Le Shemtiyut. Mais avant, il va y avoir la construction du Mishkan. Donc c'est le Mishkan, pour le Ramban, le Mishkan c'est un Sinaï portatif. C'est-à-dire, on nous dit, n'oublie pas, le Sinaï c'est pas un événement qui a eu lieu une fois. C'est quelque chose qui se donne en permanence. Donc le don de la Torah d'ailleurs, il a continué dans toutes les générations. Et le Ramban, il voulait qu'on puisse concrètement se retrouver dans une situation un peu concrète comme comme au Sinaï. Donc il a dit, voilà. Le Mishkan, c'est quand Hachem va parler avec Moshe, il va parler dans le Mishkan. Il va parler ben akrouvim, c'est-à-dire entre les chérubins, la voix que Hachem, que Moshe va entendre, elle semble venir entre les akrouvim qui sont sur le Aaron, il y a les deux anges là, les chérubins, entre les deux, il semble qu'il y a une voix qui vienne et que Moshe entend cette voix venant de là-bas. Voilà.